Il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, moi, dans la tradition chrétienne, c'est que Dieu est Père. Et que, mis à part le cantique des cantiques, qui est un beau texte auquel je n'ai jamais cru une seconde, parenthèse dans la parenthèse, je pense qu'il y a deux catégories d'êtres humains parmi ceux qui ont lu la Bible. Il y a ceux qui mettent l'Ecclésiaste plus haut que tout, et il y a ceux qui mettent le cantique des cantiques plus haut que tout. Vous avez compris que je fais partie, bien sûr, de la première catégorie. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la tradition judéo-chrétienne, sauf donc dans le cantique des cantiques que je n'aime pas beaucoup, c'est que Dieu est père, et non pas mari ou amant.
On le trouve quelquefois.
Oui, non, c'est bien.
Époux. Dans un bon entre.
Oui. Il est essentiellement père. La prière que Jésus a prise, c'est Dieu, notre père, et non pas notre époux. Pourquoi ? Ben, c'est qu'au fond, l'amour parental, qui de mon point de vue est donc le modèle, hein, par lequel on pense par sublimation, dirait Freud, l'amour chrétien, est justement un amour qui n'est plus une question de confiance. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas faire confiance à vos enfants, faites confiance à vos enfants dans la mesure où ils la méritent. Mais ce n'est pas ça, la
chose.
Oui, dans la mesure où il la mérite. Parce que si vous voyez que votre gamin est en train de mal tourner, c'est pas parce que vous lui ferez confiance qu'il faut essayer de l'empêcher de mal tourner. La vigilance, ça compte aussi. Arrêtons de nous raconter des histoires. Et quand vous élevez vos enfants, vous leur dites quoi? Si quelqu'un t'aborde dans la rue, surtout ne le suis pas. Ne faites pas confiance aux inconnus. Vous avez raison. Et vous lui expliquez qu'il faut malgré tout aimer, essayer d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas à choisir entre la lucidité. Méfie-toi des gens que tu ne connais pas. Il faut le dire à vos enfants, c'est une question de vie ou de mort. Et la primauté de l'amour. L'amour est encore au-dessus de la lucidité, encore au-dessus de la vigilance, ça n'est pas une raison pour manquer de vigilance et de lucidité. Donc, faire confiance à cet enfant, c'est très bien, mais ce n'est pas sans limite. À son époux, c'est pareil. Je continue, ma chère madame, à penser que la confiance que votre époux a pour vous fait preuve d'un peu de suffisance à son égard, et d'un peu d'aveuglement pour vous. Mais que s'agissant des enfants, ce n'est pas du tout l'important. Un jour, j'allais faire les câlins d'usage à mes trois enfants, j'ai trois fils. À l'époque, l'aîné devait avoir 7-8 ans. Il était le plus nerveux des trois depuis toujours, le plus anxieux. Et il me demande, on était dans son lit, j'ai fait des bisous, il me demande, mais papa, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait que tu ne m'aimerais plus? Je pense, culture du soupçon, qu'il se demandait, au fond, si je tue mon petit frère, est-ce que papa m'aimerait encore? Mais je n'ai pas répondu là-dessus. Il me demande, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait que tu ne m'aimerais plus? J'étais forcément un peu désarçonné par la question, j'ai réfléchi quelques secondes, et je lui ai dit, écoute, sincèrement, je ne vois pas. Je ne vois pas, puisque d'évidence, les parents dont l'un des enfants a tué l'autre, aiment les deux, et ça rend le deuil encore plus atroce. Hein. Je sais très bien ce que ma femme pourrait faire, pour que je ne l'aime plus. D'un côté, il y a un amour inconditionnel. Et le seul véritable amour inconditionnel, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. Le seul banal, fréquent, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. Et c'est celui qui a servi de modèle pour penser l'amour de Dieu, ou c'est celui qui vient directement de Dieu, qui en est la source, mais que Dieu en soit la source ou le modèle, ça ne change rien au fait qu'on est dans l'inconditionnel, qui ne mesure pas, qui est au-delà de toute question de confiance. Et l'amour conditionnel. L'amour que nous avons pour nos époux, nos épouses, nos compagnons, nos compagnes, est un amour conditionnel. Et ce que j'aime beaucoup, au fond, dans cette tradition chrétienne, c'est que, finalement, elle prend comme modèle l'amour le plus fort dont nous soyons capables, l'amour des parents pour les enfants, et pas l'amour des enfants pour les parents. Il n'est pas le même, qui est moins fort, évidemment. L'amour des parents pour les enfants. Et qu'elle le donne comme modèle pour essayer de penser ce qui pourrait être la norme des rapports entre êtres humains, l'amour de charité, qui serait un amour inconditionnel. Alors, on n'est pas Jésus, je suis d'accord, cet amour d'évidence est hors de portée, mais essayons au moins d'en comprendre la logique. Et ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que la question de la foi ou de la confiance, comme vous dites, en Dieu, est une question parfaitement pertinente. Il est clair que nos réponses ne nous séparent à cette question-là. Je ne crois pas que la réponse à la question de la foi ou de la confiance touche l'essentiel sur la question de l'amour. Et voilà, alors être un athée fidèle, c'est être un athée qui essaye de comprendre, au fond, cette logique de la charité. Cette logique de l'amour inconditionnel. Alors, évidemment, c'est irréaliste, que c'est la formule de Pierre Desproges. Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Personnellement, disait Desproges, je préfère moi-même. On en est tous là, bien sûr. Sauf que le vrai mystère, c'est qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain comme soi-même. Quand j'étais très jeune, je suis toujours beaucoup admiré Pascal, mais j'avais cru à mon esprit d'exister très jeune, m'avoir coincé quelque part. Parce que, vous savez que Pascal dit, le moi est périssable, et je me disais, mais au fond, s'il faut haïr soi-même, comme il faut aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire qu'il faut haïr son prochain. Et donc, Pascal est en contradiction avec les Écritures. C'était bien sûr une sottise, je vous rassure tout de suite. Évidemment que pour Pascal, il y a un amour que l'on se doit à soi-même. C'est un amour de charité. Alors c'est quoi l'amour de charité? La phrase la plus éclairante de ces questions me paraît trois siècles après Pascal, celle de Simone Weil. Simone Weil écrit, à mon avis, génialement, « Aimer son prochain comme soi-même, cela suppose d'abord s'aimer soi-même comme un prochain. » Tandis si vous croyez que Jésus vous demande, ou que les évangiles nous demandent, d'aimer n'importe qui, parce que le prochain, par définition, c'est n'importe qui, avec le même amour aveugle, narcissique, passionnel que vous avez pour vous-même, qu'on appelle le narcissiste, il est clair, vous n'y arriverez jamais. On ne peut pas, par définition, être narcisse de l'autre. Et donc là, c'est Desproges qui a raison. Le message de l'évangile est tout autre. Il vous dit, au fond, qu'est-ce que vous êtes? Eh bien, vous êtes n'importe qui. Puisque vous êtes n'importe qui, aimez-vous donc comme n'importe qui. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, les Écritures semblent nous demander quelque chose de fou. Aimer son prochain comme soi-même, je ne peux pas. C'est absurde, Desproges a raison. Et si on comprend en vérité, aimer son prochain comme soi-même, ça suppose d'abord s'aimer soi-même comme un prochain, c'est-à-dire exactement comme n'importe qui. On comprend que la leçon de sagesse de la tradition chrétienne, c'est de nous dire, aime-toi en vérité. Aime-toi comme tu es. Non pas l'image de toi, non pas l'aveuglement, ce n'est pas le narcissisme. Aime-toi comme tu es, pour ce que tu es n'importe qui, aime-toi donc comme n'importe qui. Et tu verras dès lors qu'il est possible d'aimer n'importe qui comme toi-même. La charité, je termine juste, la charité, c'est le contraire du narcissisme. Il y a un beau texte de Freud qui s'appelle « Pour sortir du narcissisme », « Pour introduire au narcissisme », il y aurait un autre livre à écrire qui s'appellerait « Pour sortir du narcissisme ». Sauf que ce livre a déjà été écrit, ça s'appelle « Les évangiles ».
Alors, permettez-moi de vous contredire sur un point, c'est que le commandement aime ton prochain comme toi-même n'est pas un commandement de l'évangile. C'est le commandement que le Christ rappelle comme étant justement un commandement de l'Ancien Testament. Car le Christ d'ailleurs ne rompt pas avec l'Ancien Testament et il le manifeste à travers cela. Mais tout à l'heure vous disiez, pour moi le Christ n'est pas Dieu. Cependant, le commandement propre au Christ, le commandement spécifique du Christ, lorsque le Christ dit « Je vous donne un commandement nouveau », ça n'est pas « Aime ton prochain comme toi-même », mais c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça, c'est un commandement nouveau. Parce que ça veut dire que, précisément, la source et le modèle de l'amour mutuel, c'est un amour qui ne vient pas précisément d'abord de la rencontre du prochain, mais de l'amour de celui qui est absolument l'amour, de celui qui est la source de tout amour. Et à aucun moment, bien entendu, Jésus ne se désigne comme Dieu, car la divinité n'est pas une propriété objective vérifiable, comme on peut vérifier une espèce animale. Mais, en lisant votre livre, en relisant votre livre, j'avais tout le temps présent à l'esprit l'évangile le passage dit du jeune homme riche. Je vous voyais un peu comme ce jeune homme riche. Beaucoup ici connaissent l'histoire, reprenons-la quand même un peu. Un jeune homme vient trouver Jésus et lui dit, maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, qu'y a-t-il dans la loi? Vous savez ce qu'il y a dans la loi? Il y a 10 commandements. Je simplifie. Les trois premiers commandements concernent Dieu, les sept autres concernent la vie sociale. Le jeune homme récite les sept commandements qui concernent la vie sociale. Il omet les trois commandements qui concernent Dieu. Et c'est en cela qu'il est riche. Et Jésus lui dit, une seule chose te manque. Suis-moi.
Donne tes propos et suis.
Oui. Et donc, qui peut dire cela ?
Je cherche quelque chose pour un esprit.
Qui peut dire cela si, au fond, il ne se montre pas comme celui qui est au principe des commandements, comme celui que l'on peut suivre pour remplacer, en quelque sorte, les trois premiers commandements auxquels cet honnête homme de jeune homme riche manquait. Moi, je prends au sérieux l'Évangile. Je ne le prends pas simplement comme un livre d'images nostalgiques ou comme un recueil de mots qui peuvent nous séduire encore. Mais j'y rencontre la personne de Jésus. Et cette personne de Jésus, je la rencontre vraiment comme un appel à un amour qui est source de tout amour réciproque. Et je crois que c'est vraiment le point qui nous sépare. Bon, on va sans doute s'arrêter là sur ce développement, mais je suis heureux de la manière dont notre conversation est conduite, parce qu'on arrive vraiment aux points qui sont les points névralgiques, et même dans la lecture des Écritures.
On voit bien effectivement de quelle manière l'un, André Comte-Sponville, est tenant d'une sagesse, et par ailleurs à quel point effectivement Joël Dumont défend, en quelque sorte, parler de défendre justement la position religieuse. Alors nous allons terminer par la troisième étape, quelle spiritualité pour les athées ? Terminons par le plus important, dit André Comte-Sponville en introduction ou au début de cette partie, qui n'est pas Dieu, du moins à mes yeux, ni la religion, ni l'athéisme, mais la vie spirituelle. Certains s'en étonneront. Vous, un athée, vous vous intéressez à la vie spirituelle, et alors ? Que je ne crois pas en Dieu, cela ne m'empêche pas d'avoir un esprit, ni ne me dispense pas de m'en servir. Certes, quand on prend simplement le titre « Quelle spiritualité pour les athées ?», eh bien, on peut y voir une contradiction. Mais, évidemment, on se trompe. La spiritualité, eh bien, n'est pas à saisir uniquement dans la dimension religieuse, mais aussi comme vie de l'esprit. Nous sommes un certain nombre, d'ailleurs, ici, à connaître un prêtre qui disait, et qui dirait encore aujourd'hui, qu'il a connu des religieux qui n'étaient pas spirituels, et par ailleurs des spirituels, comme des artistes, eh bien, qui n'étaient pas religieux. Néanmoins, quelle consistance pour cette spiritualité ? Qu'est-ce qui nous prouve que la spiritualité n'est pas une illusion ? L'illusion de la subjectivité qui est à la recherche, en quelque sorte, d'équilibre, de sérénité, que sais-je ? Une subjectivité qui, aujourd'hui, fait son marché dans ce que certains sociologues appellent le grand supermarché du spirituel, où l'on trouve en vrac des ersatz de religion, de sagesse, ce que les Américains appellent le New Age. L'athée fuyant l'illusion de Dieu, vous nous l'avez dit tout à l'heure à propos justement donc du désir de Dieu, que vous avez dénoncé comme une illusion, l'athée fuyant l'illusion de Dieu a-t-il besoin d'une illusion spirituelle ?
D'abord, je n'ai pas dénoncé l'idée de Dieu comme illusion. J'ai dit que pour moi, elle en était une, mais vous savez, il n'y a pas d'humanité sans illusion. Et donc, vous me demandez, est-ce que votre spiritualité n'est pas illusoire aussi, mais elle l'est forcément pour une part. Simplement parce que je suis homme et que toute idée humaine reste prisonnière des limites de la finitude. Et que dès lors qu'elle croit appréhender quelque chose de l'absolu, ben c'est forcément à travers les grilles de la subjectivité, et donc avec une part d'illusion, au fond, inévitable, et je dirais, c'est pas grave. L'illusion est notre lot. Une lucidité lucide sur elle-même devrait douter d'elle-même. Mais bien sûr. Et quel est le plus lucide qui a douté de la lucidité ? Mais c'est Montaigne, à nouveau. Une lucidité lucide sur elle-même jusqu'à suspecter ses propres illusions, En gros, c'est ce qu'on appelle le scepticisme. Je ne voudrais pas me pousser beaucoup pour dire c'est ce qu'on appelle la philosophie, mais à l'exception des philosophes dogmatiques, c'est-à-dire de presque tous les philosophes. C'est le paradoxe de la science. Alors pour le reste, allons au fond. La spiritualité, c'est quoi? En gros, c'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus en latin, d'où vient bien sûr spiritualité, spiritus en latin, ça signifie l'esprit. C'est la vie de l'esprit, et je dis là encore dans ce livre, que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle? Oui, bien sûr, mais la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais pour y dire, mais là on en parle en un sens plus particulier, vous avez raison. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier, c'est la vie de l'esprit dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Autrement dit, notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, bien sûr relatif, à l'absolu. Et bien que vous croyez ou pas en Dieu, dès lors que vous êtes doué d'esprit, vous ne pouvez pas, ou en tout cas vous n'êtes pas tenu de vous dispenser de ce que j'appellerais cette ouverture sur l'infini, sur l'éternité, sur l'absolu disponible. Il suffit de regarder un peu longuement un ciel étoilé la nuit pour comprendre qu'au fond nous sommes au cœur de l'être, donc au cœur du mystère, puisque l'être est mystère. Nous sommes au cœur de l'infini, ou de l'infini, ou de l'infini, du tellement grand que c'est comme s'il était infini. Nous sommes au cœur de l'éternité, c'est-à-dire au fond, au cœur du présent. Et j'ai essayé de penser cette spiritualité sans Dieu qui, en sa pointe extrême, est une expérience mystique. Alors bien sûr, j'ai mis du temps à utiliser le mot mystique, parce que déjà le mot spiritualité surprenait un petit peu mes collègues et mes amis, mais quand je commençais à parler mystique, ils étaient prêts à s'accrocher au rideau. Sauf que j'ai pas dû me rendre en évidence, finalement, c'est le seul mot qui dit clairement la chose. Et que le cinquième livre de l'éthique de Spinoza est évidemment un livre mystique, et que Wittgenstein, quand il dit dans le Tractatus, « Il y a assurément de l'indicible, il se montre, c'est le mystique. » Alors si l'on entend par mystique tout ce qui dépasse les limites du langage, y compris avec la part d'illusion possible que ça comporte, alors oui, il m'est arrivé parfois de vivre des expériences mystiques. Pas la rencontre de Dieu, non, non. Quelque chose que j'ai vécu à tort ou à raison, comme une ouverture sur l'infini, sur l'éternité, sur l'absolu. Alors la première fois, je raconte en détail dans mon livre, j'avais 25-26 ans, je me promenais la nuit en forêt, et tout d'un coup, quoi? Rien, tout. J'avais le sentiment que tout d'un coup, tout devenait simple, tout devenait mystérieux, tout devenait bouleversant, de mystère et de simplicité. Alors après coup, parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de mots, si on essaie de formaliser ce que j'ai vécu à ce moment-là, et que j'ai relu d'ailleurs après dans l'état de témoignages de mystiques croyants ou non croyants, je crois qu'on peut caractériser ces expériences mystiques par un certain nombre de suspensions ou de mises entre parenthèses, que je vais me contenter, faute de temps là encore, de pointer très rapidement, mais j'en parle en détail dans mon livre. D'abord, suspension du déjà connu, du déjà pensé, comme dit Krishnamurti. Mise entre parenthèses des fausses évidences, de la familiarité, de la banalité de tout. Quand vous êtes sorti de chez vous pour venir ici ce soir, vous êtes sorti de chez vous, le monde entier était là. Je suis certain que ça n'a surpris personne. C'est inouï ça. Le monde entier est là, ça ne surprend personne. Mais si le monde, c'est-à-dire tout, ne vous surprend pas, qu'est-ce qui pourra vous surprendre? Eh bien, dans cette nuit en forêt, le monde entier était là, comme toujours, et je trouvais ça bouleversant, absolument surprenant et incompréhensible. C'est ce que j'appelle le mystère. Parce que l'être est mystère, puisque à la question « Pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien ?», aucune réponse possible n'est envisageable, pour toutes sortes de raisons que je pourrais développer. Une autre parenthèse du déjà connu, du déjà pensé, de la banalité de tout, c'est ce que j'appelle le mystère. Deuxièmement, mystère est pas problème, parce qu'en même temps, une autre parenthèse de toutes les questions. Suspension de tous les problèmes, c'est ce que j'appelle l'évidence. Eh bien, c'est vivre en même temps le mystère et l'évidence, je vous jure, c'est une expérience spirituelle tout à fait étonnante, c'est déjà une expérience mystique. Troisièmement, suspension du manque. Alors ça, c'est le plus étonnant. Nous passons l'essentiel de notre vie à courir après quelque chose qui nous manque. Un peu plus d'argent, un peu plus d'amour, un peu plus de temps. Et bien voilà, il m'est arrivé pendant quelques secondes dans cette forêt de ne manquer absolument de rien. Suspension du manque, c'est ce que j'appelle la plénitude. Quatrièmement, suspension du discours. Mise entre parenthèses des mots, des raisonnements. Le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les mots qui nous servent à le dire, à l'interpréter, à le rationaliser, à nous en protéger. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus que le réel lui-même. Suspension du discours, c'est ce que j'appelle le silence. Cinquièmement, mise entre parenthèses de la séparation entre soi et tout. C'est ce que j'appelle l'unité. Sixièmement, si je compte bien, suspension de la séparation entre soi et soi. C'est ce que j'appelle non plus l'unité, mais la simplicité. Je vais très vite. Septièmement, suspension du temps. Ou plutôt, mise entre parenthèses de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, dans cette nuit en forêt, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait que le présent. Et comme il n'y avait que le présent restait présent, or un présent qui reste présent, là encore Saint-Augustin l'a dit, c'est exactement ce qu'on appelle l'éternité. Huitièmement, suspension donc de l'espoir et de la crainte, puisqu'il n'y avait plus d'avenir. Il m'est arrivé pendant quelques secondes de n'avoir peur absolument de rien. Bien, je vous jure, pour un anxieux comme moi, c'est une expérience bouleversante. Alors je m'arrête là. Mais vous voyez, il m'est arrivé parfois, rarement, je vous rassure, je ne suis pas doué pour la mystique, il m'est arrivé parfois, rarement, de vivre des moments où le mystère et l'évidence ne se dégagent, des moments de plénitude, de silence, d'unité, de simplicité, d'éternité, de sérénité. Et je n'ai rien de toute ma vie vécu de plus heureux, de plus fort, de plus simple et de plus bouleversant. Alors la première fois que j'ai vécu ça, je me suis dit, j'étais déjà prof de philo, au fond, c'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Cela, évidemment, l'a fait cesser immédiatement, puisque les mots revenaient. Ou plutôt non, l'éternité continuait, mais sans moi. Ça me renvoyait en dehors de l'éternité. Et pourtant, j'avais raison. J'avais raison, mais simplement, ce n'était plus de la mystique, c'était de la philosophie. J'avais raison parce que c'est bien ce que Spinoza appelle l'éternité. Quand Spinoza a écrit dans ce livre 5 de l'éthique, car nous sentons et expérimentons, que nous sommes éternels. Non pas que nous le serons après la mort, ce à quoi Spinoza ne croit aucunement, et moi non plus, non. Nous sentons et expérimentons que nous sommes ici et maintenant éternels. Je disais tout à l'heure, pour l'athée fidèle que je suis, le royaume, c'est maintenant. Je pourrais dire aussi bien, l'éternité, c'est maintenant. Et ce que j'appelle la vie spirituelle culmine en effet dans sa pointe mystique, dans cette façon de vivre au présent, l'éternité de chaque jour. Ce que mon ami Christian Bobin appelle si joliment le huitième jour de la semaine. Christian n'ignore pas qu'il n'y a que sept jours dans la semaine. Il n'en a pas inventé un huitième qui serait entre le mardi et le mercredi. Le huitième jour de la semaine porte un nom très différent. Il s'appelle aujourd'hui, c'est le vrai nom de l'éternité.
La description que vous faites d'une expérience mystique est une description qu'un grand nombre de mystiques chrétiens ont fait, et tous les termes que vous utilisez, ils peuvent les reconnaître. En particulier, l'idée que dans le présent se rencontre l'éternel, et que dans le présent et dans la présence, je peux faire une expérience de l'éternel. Mais il y a quelque chose que vous ne dites pas, et que vous dites dans votre livre, et qui, je crois, marque bien les deux manières de concevoir la mystique, selon qu'on l'est croyant ou qu'on ne l'est pas. Parce que dans votre livre, cette expérience, vous la décrivez, quand vous dites « je suis en présence du tout », vous la décrivez comme une perte de l'ego, une disparition de l'ego dans le tout. Ce soir, dans votre description, vous avez oublié ça.
Un peu de temps.
Mais, oui, non, mais c'est pour ça que je me permets de revenir là-dessus. Et, et on comprend bien que, finalement, l'infini, puisque vous dites rapport du fini à l'infini, rapport du temps à l'éternité, rapport du relatif à l'absolu, cet infini que vous concevez, vous le pensez comme un tout, et vous insistez bien sur le fait que vous ne le pensez pas comme un autre. Autrement dit, c'est une expérience mystique de l'immanence, que vous avez fort bien décrite. Cette expérience mystique de l'immanence, elle se vit sur le mode d'une perte de soi. D'une sorte, vous refusez le mot extase pour des raisons que je comprends, mais donc vous insistez sur le fait que l'ego est une prison, l'ego doit être rompu, et au fond, ce que vous décrivez comme un sentiment océanique, c'est une perte de soi dans le tout. Et là est l'ambiguïté de la mystique, les deux manières de comprendre la mystique. Est-ce que la mystique se comprend comme une fusion ou comme une rencontre? Est-ce qu'elle se vit comme une identification ou comme une altérité? Le chrétien que je suis ne peut pas concevoir le rapport du fini à l'infini, du temps à l'éternité, du relatif à l'absolu, comme une perte de son ego, comme une perte de ce moi, dont vous disiez tout à l'heure qu'il était quelque peu ridicule et médiocre. Non, l'expérience... alors c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on le sait, l'Église s'est méfiée des mystiques, parce que souvent, les mystiques traduisent justement leur expérience comme une expérience de perte d'eux-mêmes, comme une expérience d'oubli d'eux-mêmes. Et c'est pas un chrétien, c'est Lévinas qui, dans Difficile Liberté, exprime la même réticence à l'égard de la mystique, en disant préférer la Torah à Dieu et se méfier de tout ce qui se présenterait comme une expérience immédiate, une expérience spontanée de la rencontre de l'immensité divine. Je suis un lecteur de Montaigne, j'ai même fait mon mémoire de maîtrise sur Montaigne. D'ailleurs, nous avons beaucoup de lectures en commun. J'ai pendant longtemps fait comme prière quotidienne des propos d'Alain, que vous connaissez et aimez autant que moi, et j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours beaucoup Montaigne, mais celui dont j'ai beaucoup reçu, le plus reçu, c'est Kierkegaard. Et Kierkegaard décrit la relation à Dieu comme celle de l'unique devant Dieu. Le cœur de l'expérience mystique pour le croyant, c'est la rencontre de Dieu qui dit justement, non pas « tu es insignifiant dans le grand tout, tu es une poussière dans l'immensité, mais tu es unique. » De telle sorte que bien loin d'être l'abolition de l'identité, c'est, je dirais, sa restauration. Et alors là, je m'interroge sur votre pensée, mais peut-être vous pourrez m'éclairer, parce que vous avez insisté tout à l'heure sur l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour si le dernier mot est la perte de soi? Si j'aime quelqu'un, aimerais-je quelqu'un dont tout l'idéal est de se perdre soi-même? Aimerais-je quelqu'un qui finalement voit dans l'ego une prison, voit dans l'ego un ensemble d'illusions et de mensonges? Aimerais-je quelqu'un à qui je ne pourrais pas dire « Toi, l'unique, tu es infiniment précieux, précisément parce que tu es unique ?» et non pas fondu dans le grand tout. Que m'importe quelqu'un qui veut s'abolir? Que m'importe quelqu'un qui veut s'étourdir? Le cœur de l'expérience spirituelle, ça n'est pas la fusion de mon identité dans la totalité, le cœur de l'expérience spirituelle, c'est la restauration de mon identité dans l'altérité. Et c'est précisément ce qui exprime toute la différence entre la foi et une sagesse cosmique, au fond. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre sur la contradiction que je vois, mais qui n'est peut-être pas, entre l'idée d'amour et l'idée de négation de l'ego?
Voilà.
D'abord, un mot pour dire que je suis parfaitement d'accord avec la description que vous avez faite de notre désaccord. C'est déjà quelque chose. On n'y arrive pas toujours, vous savez, donc c'est plutôt une bonne soirée. Ne vous plaignez pas. Oui, en gros, il y a deux types de mystiques. Il y a ce qu'on appelle entre philosophes une mystique de l'immanence, que j'ai essayé de présenter, et il y a une mystique de la transcendance, que M. Dumont représente ici. Mystique de l'immanence, donc de la fusion, comme il disait, de l'unité, comme je le disais, ce que Freud appelle le sentiment océanique, effectivement, ce que j'appelle l'enstase, plutôt que l'extase, mais c'est pas moi qui invente le mot. Bref, être un avec tout, comme la vague ou la goutte d'eau sont une avec l'océan qui les prend. C'est pour ça que Freud parle de sentiment, c'est une expression qu'il emprunte à son ami vénéré Romain Rolland, hein. C'est ce que Freud et Romain Rolland appellent le sentiment océanique. C'est-à-dire être un au fond, avec quelque chose qui est tout et qui nous contient. Un de mes amis me disait un jour, mais moi je ne suis pas athée, je crois qu'il y a quelque chose. Il était drôle. Moi aussi, si je crois qu'il y a quelque chose. Le fait qu'il y ait quelque chose, on est tous d'accord là-dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle l'être. Et croire en Dieu, c'est pas croire qu'il y a quelque chose, c'est croire qu'il y a quelqu'un. Et donc, ce n'est pas du tout le même type de spiritualité, même si les deux sont avérés par des mystiques parfaitement respectables, c'est une question de hiérarchie, mais il y a des mystiques de la transcendance, de la rencontre avec un grand autre qui est quelqu'un, et en gros, c'est ce qu'on trouve dans le christianisme, pas toujours chez les mystiques chrétiens, c'est pourquoi beaucoup de mystiques chrétiens, dont Maître Eckhart, qui serait à certains égards plus proche de moi que de vous, ont une maille à partir avec l'Église, ou à la lâche chez les musulmans, pour la même raison, mais c'est ce dans quoi l'Église se reconnaît le mieux, et puis il y a ces mystiques de l'immanence, de la fusion, de l'unité au-delà de l'ego, et ces mystiques de l'immanence, on les trouve très souvent en Orient, et parfois dans la tradition chrétienne, et parfois souvent dans les traditions non chrétiennes, comme par exemple philosophiquement chez Spinoza. Alors sur la question maintenant, est-ce qu'il y a une contradiction entre cette envie de se libérer de soi et cette espèce de fidélité à l'amour que j'évoquais ? Je ne crois pas. Je ne crois pas sur ce point-là, parce que, au fond, être libéré de soi, ça n'est pas mourir, hein, ce n'est pas le triomphe de la pulsion de mort, comme on le voit malheureusement parfois chez Simone Weil, que j'aime infiniment par ailleurs. Non, non, c'est, il y a un amour qu'on se doit à soi-même, c'est un amour de charité, c'est Pascal qui a raison. C'est Simone Weil, quand elle dit par ailleurs, aimer son prochain comme soi-même, ça suppose qu'on s'aime d'abord soi-même comme un prochain. Autrement dit, quand vous êtes libéré de l'ego, vous êtes n'importe qui. Et alors, vous pouvez commencer à vous aimer vraiment en vérité. C'est pourquoi un ami psychiatre me disait un jour, les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. Les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes, ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. Être narcissique, c'est être prisonnier de son ego. Quand on se libère de l'ego, quand on est enfin n'importe qui, on peut s'aimer comme n'importe qui, c'est ce que j'appelle un amour, c'est ce qu'on appelle un amour de charité à l'égard de soi-même. Et là, on peut dire, pour le coup, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je terminerai simplement, enfin, sur ce point précis, après de dire quelque chose, mais moi, ce sera mon dernier mot, sauf le débat avec la salle, mais je vous laisserai évidemment conclure. Hein. Non, une autre chose qui nous sépare, et qui pourrait passer pour contradictoire, même si moi, je ne l'ai pas vécu à l'époque, c'est que cet état mystique que j'évoque, en gros, ils sont par-delà le bien et le mal, comme dirait Nietzsche. Il n'y a plus de jugement de valeur. Est-ce qu'il y a encore de l'amour ? Pas du tout au sens où je me serais senti aimé, parce qu'on ne peut être aimé que par quelqu'un. Et moi, je n'étais pas face à quelqu'un, j'étais dans le grand tout. Mais j'ai envie de dire qu'en moi, en revanche, en quelque chose, il n'y avait plus que de l'amour. Parce qu'il y avait de la joie, avec comme cause de la joie, or, Spinoza, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause. Quand vous êtes joyeux de l'existence de tout, vous aimez tout. Et donc, j'étais dans une situation paradoxale d'aimer quelque chose qui ne m'aimait pas. Et j'ai souvent dit qu'au fond, la différence entre le chrétien et le philosophe athée, c'est que le chrétien aime la vérité qu'il aime. Vous aimez la vérité vous aime. Le philosophe athée en est réduit à l'inconfortable situation d'aimer une vérité dont il pense qu'elle ne l'aime pas. Mais j'ai envie de vous dire, où avez-vous lu qu'il fallait être aimé d'abord pour aimer ? Où avez-vous lu qu'il ne fallait aimer que ceux ou ceux qui vous aiment ? J'ai envie de dire, en tout cas, là encore, pas dans les évangiles. Alors bien sûr, ça serait mieux s'il y avait quelqu'un, si l'amour avait le dernier mot. Je vous l'accorde, ça serait mieux si Dieu existait. Encore une fois, ça ne me paraît pas une raison suffisante d'y croire, et même au contraire, ça me paraît une raison assez forte de n'y pas croire. Mais enfin, quand bien même, parce qu'au fond, je dis encore dans le livre, vous savez, M. Dumont et moi, nous nous sommes séparés, au fond, par 3 jours. Les 3 jours qui séparent le vendredi saint de Pâques. Parce que pour lui comme pour moi, différemment, mais pour lui comme pour moi, les 33 années que nous racontent les évangiles, on ne les interprète pas de la même façon, mais au fond, on essaye l'un et l'autre d'être fidèles à cette histoire-là. Sauf que pour moi, l'histoire s'arrête sur le calvaire. Où Jésus, sur la croix, citant le psalmiste, comme vous le savez, nous dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Où il est notre frère, vraiment, puisqu'il partage notre souffrance, notre angoisse, notre détresse, peut-être un moment, notre désespoir. Sauf que pour M. Dumont, bien sûr, l'histoire continue, 3 jours de plus, jusqu'au tombeau vide et à la résurrection. Alors bien sûr, comme ça débouche sur la résurrection, ça fait au bout du compte une sacrée différence que je ne prétends pas du tout annuler. Mais j'ai envie de dire, là encore, est-ce qu'il est très raisonnable d'accorder davantage d'importance à ces 3 jours qui nous séparent, je ne dis pas encore qui nous opposent, mais qui nous séparent, qu'aux 33 années qui précèdent, dans le souvenir ému desquels nous pouvons communier. J'ajouterai simplement, et ce sera effectivement mon dernier mot, vous savez, j'ai beaucoup lu Spinoza, la phrase qui m'a donné le plus de mal dans toute l'œuvre de Spinoza, c'est une phrase pourtant très simple dans sa structure grammaticale. Spinoza écrit dans l'éthique, « La béatitude est un état éternel et donc ne peut être dite commencer que fictivement. La béatitude est éternelle et donc ne commence pas. » Moi, j'étais jeune prof de philo, j'avais 25 ans, 28 ans, 30 ans, je ne sais pas, je lisais ça, je relisais ça, je me disais, il est marrant Spinoza. Mais si la béatitude est éternelle et donc ne commence pas, moi, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas un bienheureux, c'est râpé définitivement. Et quand même, ça m'ennuyait, cette histoire-là. Et j'ai commencé à comprendre ce que disait Spinoza en lisant une phrase d'un tout autre univers intellectuel et spirituel, c'est une phrase de Nagarjuna, l'un des grands penseurs et mystiques bouddhistes du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ en Inde. Alors vous savez que ce que Spinoza appelle la béatitude, les bouddhistes appellent ça le nirvana. La béatitude, le salut, c'est ce qu'ils appellent le nirvana. Et le contraire du nirvana, autrement dit la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, comme disait Alain, la vie difficile, angoissante, fatigante, douloureuse, c'est ce qu'ils appellent le samsara. Le salut, c'est le nirvana. Le contraire du nirvana, la vie telle qu'elle est, ratée, gâchée, manquée, quotidienne, c'est le samsara. Sauf que Nagarjuna écrit, et c'est à mon sens la phrase la plus forte de toute l'histoire de la spiritualité, Nagarjuna écrit, tant que tu fais une différence entre le nirvana et le samsara, tu es dans le samsara. Et tout d'un coup, j'ai compris, ou j'ai commencé à comprendre, ce que Spinoza voulait dire en disant que la béatitude est un état éternel et donc ne commence pas. J'ai envie de dire que tant que tu fais une différence entre la béatitude et ta vie difficile, ratée, gâchée, manquée, tu es dans ta vie difficile, ratée, gâchée, manquée. Tant que tu fais une différence entre l'absolu et le relatif, tu es dans le relatif. Tant que tu fais une différence entre le salut et la perte, tu es perdu. Tant que tu fais une différence entre l'éternité et le temps, tu es dans le temps. Tant que tu fais une différence entre le paradis et l'enfer, tu es en enfer. Autrement dit, j'avais 2 nouvelles à vous apporter. Une bonne nouvelle, parce que j'ai aussi la bonne nouvelle, et une mauvaise. Je commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà sauvés. La mauvaise nouvelle, c'est que bien sûr, et par la même, vous êtes déjà perdus. Autrement dit, ce que je crois, et c'est ce que j'appelle le tragique, ce que je crois, c'est que l'enfer et le paradis sont une seule et même chose. Cette chose, c'est ce qu'on appelle le monde. Et c'est pourquoi je suis bien athée, parce que je ne crois en aucun Dieu, en aucune vie après la mort. Je vous rassure, enfin, des fois les gens doutent. Non, je suis vraiment complètement athée. L'enfer et le paradis sont une seule et même chose, c'est ce qu'on appelle le monde. Sauf que quand on fait une différence entre l'enfer et le paradis, clairement, on est en enfer. ce qui donne une idée de ce que peut être le paradis.
Alors la bonne nouvelle, vous avez précisé, puisque que je suis sauvé, je le savais déjà, et pas par vous. Et encore moins sauvé par vous, bien entendu.
Alors ça, je n'y prétends pas.
Et je crois que vraiment, à mesure qu'avance notre conversation, les différences s'accentuent et se mettent en lumière. Parce que, au fond, vous montrez bien que le salut tel que vous le présentez est une délivrance. Ce qui est propre à toutes les sagesses. Délivrance, au fond, de ma finitude dans le grand tout, délivrance de mon opacité. Le salut chrétien n'est pas une délivrance, il est une assomption. Il ne s'agit pas de se débarrasser de quelque chose de sa vie, il ne s'agit pas de lâcher quelque chose de sa vie, mais de l'accomplir. Vous évoquiez le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, à quoi Thomas demande-t-il à le reconnaître ? À ses plaies. Autrement dit, le Christ ressuscité, ce n'est pas un Apollon. Le Christ ressuscité, c'est bien celui en qui la tragédie s'assume. Et il n'y a pas de contradiction entre le Christ ressuscité et celui qui crie sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» puisque ce Christ ressuscité, il se reconnaît à ses plaies. De telle sorte que, et c'est la raison pour laquelle les chrétiens, dans le credo, disent qu'ils croient à la résurrection de la chair, ce qui veut dire que le salut n'est pas une délivrance, mais une assomption. Et c'est dans ce sens qu'il est parfaitement juste de dire que l'éternité est déjà enveloppée dans ce présent. Mais où est au fond la différence la plus importante entre nous ? C'est que, l'expérience mystique du croyant, c'est celle d'être l'unique devant Dieu. Non pas une expérience de fusion, mais une expérience d'altérité. Je disais tout à l'heure de dépendance bienheureuse par rapport à cet autre qui me fait face. Et il y a un mot que nous n'avons pas prononcé encore et que je vais avoir l'impudeur de prononcer, qui est au fond celui du péché. Parce que la sagesse, elle fait l'économie de l'expérience du péché. Et si je me présente comme l'unique devant l'autre, c'est très différent d'une fusion. Parce que me présentant devant comme l'unique devant l'autre, je ne peux que simultanément me reconnaître, alors pour le coup, comme sauvé et perdu. C'est-à-dire que je ne peux que simultanément me reconnaître comme pécheur devant le regard d'amour de l'autre, dont au fond, j'éprouve que je suis radicalement indigne, en même temps que je le reçois avec reconnaissance. Je ne peux pas recevoir ce regard d'amour avec reconnaissance si simultanément, je ne m'en perçois pas comme indigne. Si bien que je fonds simultanément de joie et de honte, en quelque sorte, dans ce sentiment de rencontre qui me détache de moi-même, vous voyez, si on repense à ce que je disais du corps ressuscité du Christ, non pas me détache de moi-même, mais me rend à moi-même, non pas en faisant l'impasse sur la tragédie, non pas en faisant l'impasse sur tout ce qui m'alourdit, mais au contraire, en lui donnant sens par ce regard d'amour qui est seul capable de lui donner sens.
Bien, merci. Donc, à tous les deux pour cet échange nourri. Il est de tradition au Collège supérieur de donner la parole à la salle. Nous avions prévu de terminer à 21h45. Nous allons prendre quelques minutes, simplement quelques minutes. Y a-t-il une ou deux questions parmi vous ? Moment difficile, évidemment. Oui, allez.
J'ai vu une masse de veille à madame là-bas.
Alors, vous parlez bien fort puisqu'on n'a pas de micro et on est nombreux.
Allez. Je vais pas poser de questions parce que j'ai compris. Je n'ai pas pris une si brillante professeure. conférence. Moi, j'ai une phrase que j'ai dans la tête depuis que j'ai 10 ans, parce que ça, c'était notre aumônier qui nous le répétait. C'était quelqu'un qui s'appelait Père Pierre Bonnard. Il travaillait dans les textes de la Bible et il nous disait « L'acte de création est un acte d'amour. Dire Dieu, c'est dire amour. » Et cette phrase, je l'ai toujours gardée en tête. Et donc, je ne sais pas, puisque vous avez justement inventé cette notion d'amour, je me dis, est-ce que la clé, elle vient pas de là? Est-ce qu'on peut envisager, sans transcendance, que l'homme en lui-même puisse avoir cette notion d'amour? Est-ce qu'elle peut exister en elle-même, sans aucune transcendance?
Bien sûr, mais...
C'est la relation.
Si c'est sans aucune transcendance, cet amour n'est pas Dieu. Parce que...
Il n'est pas créateur.
Pardon ?
Et il n'est pas créateur.
Il n'est pas créateur, voilà. Autrement dit, parce que du fait que Dieu, s'il existe, soit amour, ce que j'accorde volontiers à votre aumônier, on ne peut pas déduire que l'amour est Dieu. Parce que l'amour n'est Dieu que s'il est transcendant, créateur, tout-puissant. Alors si vous croyez en un amour transcendant, créateur, tout-puissant, bref, si vous croyez, comme le cantique des cantiques pour le coup, que l'amour est aussi fort que la mort, voire plus fort que la mort, alors appelez-le Dieu, c'est plus simple. Si au contraire, comme moi, vous ne croyez qu'en des amours faibles, immanentes, non pas plus fort que la mort, mais au contraire moins fort que la mort, et croyez bien que je le regrette. Non pas du tout qu'il soit impossible d'aimer les morts, l'expérience du deuil prouve le contraire. Mais un, parce que rien ne m'autorise à penser que les morts, eux, peuvent nous aimer. Et deux, parce que nous savons d'expérience que la mort, que l'amour, pardon, n'a jamais empêché personne de mourir. Les parents ici qui ont veillé un enfant mourant, et j'en fais partie, le savent d'expérience. Ils aiment leur enfant plus que tout, l'amour qu'ils ont pour lui ne l'empêchera pas de mourir. Ça ne retire rien à l'amour. Sauf que si l'amour est faible, si l'amour est moins fort que la mort, si l'amour n'est pas transcendant mais humain, eh bien cet amour n'est pas Dieu. J'ai envie de dire, bon, et alors? Est-ce que c'est une raison pour cesser d'aimer l'amour? Bien sûr que non. J'évoquais le calvaire. La différence entre le croyant et l'athée, c'est que pour le croyant, ça se termine par la victoire. Moi, la victoire de l'amour, très bien, mais je vais vous dire, c'est pas la victoire que j'aime, c'est l'amour. Si bien que quand bien même l'amour, au bout du compte, serait vaincu, c'est ce que dit Alain, nous aimons l'un ou l'autre, ne dites pas que Dieu est tout puissant, qu'il aura fortune et gloire, enfin, la couronne d'or. Non, c'est la couronne d'épines qu'il aura. C'est ce que nous rappellent les calvaires à tous les carrefours, Diana. Autrement dit, l'amour est faible. Eh bien, je vais vous dire, pour moi qui n'aime pas la force mais l'amour, que l'amour soit faible, ça n'est pas une raison pour ne plus aimer l'amour. Que pour moi qui aime l'amour davantage que la victoire, même quand l'amour est vaincu, parce qu'on meurt finalement, ça n'est pas une raison pour ne plus aimer l'amour. Donc voilà, les uns et les autres, nous croyons tous en l'amour, ou plutôt, nous aimons tous l'amour. Mais les uns croient en la toute-puissance, en la transcendance de l'amour, c'est ce qu'on appelle en gros la religion. Et d'autres ne connaissent d'amour humaine, mortelle, faible, mais trouvent, et au fond ça sera peut-être ma conclusion, que le fait que l'amour soit faible, c'est une raison pour essayer d'aimer un peu plus, un peu mieux, mais ça n'est évidemment pas une raison pour cesser d'aimer l'amour.
Je ne peux que souscrire à la description qui est faite de l'amour, qui est pour le coup parfaitement évangélique. Et peut-être reprendre l'expression aimer l'amour, parce que moi j'aime pas l'amour, j'aime les personnes.
Vous avez raison, c'est la belle formule de Saint-Augustin, amare amabam, non dum amabam. J'aimais aimer, je ne l'ai pas encore. Je vous en donne hâte. Mais nous aimons l'amour quand même, mais c'est peut-être encore une illusion dont il faut se débrancher. Parce que, évidemment, ce qu'il faut aimer, c'est pas l'amour, c'est les personnes, et non pas parce qu'elles sont aimables. Là, si vous aimez les gens parce qu'ils sont aimables, on est chez Eros, on est chez Philia, on n'est pas chez Agapé. Le secret d'Agapé, pour le dire en termes théologiques, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes infiniment aimable que Dieu vous aime infiniment. c'est parce que Dieu vous aime infiniment que vous êtes infiniment aimable. Autrement dit, ce n'est pas la valeur de l'objet qui gouverne l'amour, c'est l'amour qui donne de la valeur à son objet. Vous allez me dire, mais c'est du christianisme, non, parce que ça veut dire la peut-être, mais ça veut dire aussi bien qu'il n'y a pas de valeur en soi. Et puis comme disait Spinoza, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Autrement dit, de mon point de vue, il n'y a pas d'autre Dieu que l'amour. L'amour n'est pas Dieu, donc il n'y a pas de Dieu du tout. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Ça ne marche pas. Permettez quand même que je vous réponde.
Je vous laisse le dernier mot.
Ça ne marche pas. Regardez le parcours que vous nous avez fait suivre brillamment. Vous avez commencé par citer quelqu'un qui disait, je vous dis, excusez-moi, j'ai oublié la référence, que vous êtes aimable parce que vous êtes aimé. Vous avez ensuite dit, cela prouve que l'amour ne vient pas du fait que l'objet est aimable. Et vous avez glissé à un tout autre argument qui dit l'inverse, qui dit, je trouve aimable ce qui correspond à mon désir, alors que le premier argument consistait à dire je suis aimable parce que je suis aimé. Donc, vous avez changé de point de vue.
Oui, mais de point de vue, ce n'est pas l'argument, c'est les deux côtés
du même amour. Ah ben non, mais justement, je ne suis pas du même côté de l'amour. Ben, au fond, là, vraiment, la conclusion est parfaite. Parce que, si vous permettez de penser ça, c'est qu'on voit vraiment dans ce glissement que vous avez fait, ce retournement, dont je ne sais pas s'il est copernicien, entre...
Il est spinoziste, en fait.
Oui.
Le seul glissement, c'est que, pour Spinoza comme pour moi, le désir et l'amour sont toutes les mêmes choses, du même que le désir est l'origine de l'amour. Et donc, ça veut simplement dire que ce n'est pas la valeur qui gouverne l'amour, c'est l'amour qui donne de la valeur. Et sur ce point-là, on est, je pense, d'accord. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas, selon que vous prenez le point de vue de Dieu ou vôtre, vous n'êtes pas du même côté de l'amour.
On n'est pas du même côté si on est du côté de l'amour reçu ou de l'amour donné. Et je crois que là, on a un point tout à fait fondamental, qui est au fond un croyant, je disais au début, il est en dette. Il ne pense pas cette relation comme une relation symétrique et égalitaire, au bout du compte. Et de telle sorte que de l'amour reçu à l'amour donné, il y en a un qui est source et un qui ne l'est pas. Et c'est ce qui fait qu'il est très différent de dire « je suis aimable parce que je suis aimé » et de dire « quelque chose est aimable parce que je l'aime ».
Voilà, nous allons rester là ce soir. Merci. On va applaudir.